Radio Prague, les informations.
Élection du nouveau maire de Prague. Le 8 décembre prochain, des manifestations seront organisées dans 19 villes tchèques. Les informations sur le passé des juges tchèques seront désormais plus facilement accessibles. C'est le médecin Bohuslav Svoboda, candidat de la coalition du Parti civique démocrate ODS et du Parti social-démocrate ČSSD, qui a été élu maire de Prague. Cette coalition a provoqué de nombreuses protestations et aussi des manifestations à Prague. Les critiques de la coalition protestent contre l'éviction du parti Top 09, vainqueur des municipales mais laissé pour compte suite à l'accord entre le principal parti de droite ODS et les sociaux-démocrates. Pratiquement pendant toute la journée, les manifestants ont bloqué la réunion constituante du nouveau conseil municipal. Les opposants à l'accord de coalition ODS-ČSSD à la mairie de Prague ont manifesté devant la mairie et ont bloqué les activités des représentants municipaux. La mairie devait être protégée par la police. Les manifestants ont brisé les vitres de la porte d'entrée. Parmi les manifestants qui ont pénétré jusqu'à la salle de réunion se trouvait également l'ancien président tchèque Václav Havel. La réunion houleuse a dû être reportée plusieurs fois de suite. Selon le premier ministre Petr Nečas ODS, les manifestants ont le droit d'exprimer leur désaccord avec la coalition ODS-ČSSD à la mairie de Prague, mais ils ne devraient pas bloquer les activités du conseil municipal. Petr Nečas préférerait une coalition de droite à Prague, mais il estime qu'on doit donner au nouveau maire Bohuslav Svoboda la possibilité de réaliser son programme. De même, Bohuslav Sobotka, chef du parti social-démocrate tchèque ČSSD, formation principale de l'opposition, manifeste sa compréhension pour les manifestants tout en estimant que les activités du nouveau conseil municipal ne doivent pas être bloquées. Au cours de la grève qui sera organisée par les syndicats tchèques le 8 décembre prochain, des manifestations auront lieu dans 19 villes tchèques. La Confédération tchéco-morave des unions syndicales a publié la liste de ces villes. Les syndicats protesteront de cette façon contre les restrictions budgétaires et la réforme des systèmes des salaires préparés par le gouvernement. À Prague, les manifestants se réuniront au place Palatsky, Palackého náměstí. Les documents sur le passé des juges tchèques seront désormais plus facilement accessibles. La Cour constitutionnelle a donné raison au militant Tomáš Pecina et a invalidé la décision de la Cour administrative suprême qui lui avait refusé les informations sur le passé politique des juges. Tomáš Pecina voulait savoir quel juge tchèque avait été membre du Parti communiste de Tchécoslovaquie. Selon la Cour constitutionnelle, l'information sur le passé communiste des juges est importante pour le débat de la société civique sur l'impartialité et l'indépendance de la justice. Météo. Ce mardi, jour de fête des Andrzej, le temps est resté couvert malgré quelques éclaircies des chutes de neige, pourraient toutefois avoir lieu par endroits. Les températures ont varié de moins 7 à moins 3 degrés pour les maximales. Mercredi, le ciel entier qui sera couvert et il neigera par endroits. Les températures se situeront toujours entre moins 7 et moins 3 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Václav pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Trois grands thèmes figurent au sommaire de cette actualité. Politique tout d'abord avec la manifestation qui s'est tenue à la mairie de Prague pour protester contre la formation de la nouvelle coalition entre les deux principaux partis de droite et de gauche du pays. Économique ensuite avec des tests de résistance qui ont confirmé la stabilité du secteur bancaire tchèque. Et puis enfin culturel avec la poursuite du festival du film français. Aujourd'hui, il sera question de l'enfance d'Icare, un film testament de Guillaume Depardieu. Mais en attendant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons, où que vous soyez dans le monde, la meilleure réception possible. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant et à l'intérieur de la mairie de Prague mardi matin, jour prévu de l'élection du nouveau maire. Les manifestants ont protesté contre l'accord de coalition conclu entre le Parti civique démocrate, ODS, et le Parti social démocrate, ČSSD, les deux principales formations politiques de droite et de gauche du pays. Chahutés par plusieurs dizaines de manifestants entrés dans la salle, la séance du conseil municipal devant permettre l'élection du maire et des conseillers a dû être reportée à plusieurs reprises. Nové Volby. Beaucoup de bruit, beaucoup d'émotions pour réclamer la tenue de nouvelles élections. Tête de liste de l'ODS, le gynécologue Bohuslav Svoboda aurait dû être élu maire de Prague mardi matin. Au lieu de cela, il a été contraint à 4 reprises de reporter à plus tard le début de la séance du conseil municipal. Comme il l'avait promis, les Pragois présents à la manifestation ont laissé éclater leur colère. C'est une honte et c'est une cochonnerie. Tels sont deux des principaux slogans qui revenaient dans la bouche des manifestants qui, malgré le froid et la neige, ont suivi sur le grand écran installé devant l'entrée de la mairie de Prague la retransmission télévisée de la séance du conseil municipal.
Praha svobodu nechce. Chtěla topku, která vyhrála volby.
Prague ne veut pas de Svoboda. Prague veut le parti Top 09 qui a remporté les élections. Un autre manifestant résume en quelques mots la raison de son mécontentement. En octobre dernier, c'est en effet Top 09, l'autre principal parti de droite du pays avec l'ODS, qui a remporté le scrutin à Prague. Mais après plusieurs semaines de vaines négociations, ce sont les partis arrivés en deuxième et troisième position, l'ODS et le ČSSD, qui malgré leur rivalité sont parvenus à un accord pour former une coalition, renvoyant ainsi Top 09 dans les rangs de l'opposition. Mais pour beaucoup de Pragois qui souhaitaient de profonds changements à la direction de la municipalité, après de longues années de suprématie ODS, cette coalition gauche-droite contre nature, que certains présentent comme un cartel de corruption, est une pilule qui ne passe pas. C'est pourquoi, parallèlement aux manifestations, plus de 22 000 personnes ont également signé une pétition traduisant leur ras-le-bol des manœuvres en coulisses auxquelles sont rompus leurs représentants politiques et leur crainte que rien ne change dans les mœurs et pratiques à la mairie de Prague. Mardi matin, leur ras-le-bol s'est donc transformé en colère, mais le probable futur maire de Prague, Bohuslav Svoboda, estimait que les manifestants sont allés trop loin.
Toto není demokracie. Demokracie je o tom...
Cela n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est autre chose. Cela sous-entend respecter les lois démocratiques et négocier civilement. Protester est bien entendu un droit constitutionnel que possède chaque citoyen, mais son devoir est aussi de se comporter de façon civile. Je ne peux pas accepter les vulgarités et les insultes qui m'ont été proférées. Je n'arrive pas à la tête de la mairie parce que je suis corrompu ou parce que je veux gagner de l'argent.
Do čela magistrátu proto, že je korupčník nebo že si chce vydělat.
Mardi à 14h, la séance du conseil municipal avait toutefois enfin pu débuter. Le calme était revenu, seuls 90 manifestants ayant été autorisés à assister au débat. On passe à l'économie. La République tchèque participera à l'aide financière accordée par la Commission européenne à l'Irlande. La République tchèque sera le garant de la somme de 6 milliards 700 millions de couronnes. Alena Gebertova.
L'eurozone lutte pour sa survie. La Tchéquie, elle aussi, aura à fournir son soutien. Titre lundi, le quotidien économique Hospodářské noviny. Le montant du prêt garanti par la République tchèque est pourtant modeste, ne représentant que 3 pour 1000 de la totalité de la somme qui sera accordée aux Irlandais. Tomáš Zidek, vice-ministre des Finances, a précisé.
Au cas où l'Irlande ne serait pas en mesure de payer cette somme avant l'expiration du délai du prêt, la République tchèque serait amenée à contribuer au budget européen davantage qu'elle ne le fait aujourd'hui, car il s'agit d'une réserve qui n'est pas remboursée.
Les chutes des marchés financiers et les graves difficultés économiques pourraient-ils menacer le fonctionnement des banques tchèques? Pour connaître la réponse, la Banque nationale tchèque vient d'effectuer des stress tests auprès de 22 banques qui ont leur siège en République tchèque. Leurs résultats donnent lieu à un optimisme plus que modéré. Pour David Marek, économe de la société Patria Finance, les résultats de ces tests de résistance confirment que le secteur bancaire tchèque est stable et sûr.
Pour le client de toute banque qui est implantée en République tchèque, ces résultats apportent une certaine accalmie, la confirmation de ce qu'il n'y a aucun risque pour l'argent déposé ou bien pour les prêts, bref, pour tous les produits réalisés avec les banques. Les résultats des tests ont réellement apporté de bons résultats.
« Les résultats des tests en question révèlent en outre que les banques qui sont implantées en Tchéquie seraient à même de faire front même à des scénarios très noirs. La Banque nationale tchèque estime d'ailleurs qu'une situation extrême qui serait due aux évolutions très défavorables des économies intérieures et extérieures et à une nouvelle incertitude sur les marchés financiers s'annonce peu probable.
Parmi les films présentés à la 13e édition du Festival du film français, L'enfance d'Icare, un film du jeune réalisateur roumain Alexandre Iordanescu. Il suscite l'attention notamment parce qu'il s'agit là du tout dernier film de Guillaume Depardieu avant son décès brutal à la fin du tournage. Un premier long métrage qui raconte l'histoire d'un avocat dont la vie est brisée par un accident de la route, amputé d'une jambe, il est prêt à se soumettre à une expérience clinique menée par un scientifique qui prétend pouvoir faire repousser sa jambe. Alexandre Iordanescu au micro d'Anna Kubishta.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de recherche n'a rien d'exotique, ce n'est pas de la science-fiction. La recherche en laboratoire va même plus loin que ce que moi j'indique dans le film en fait. C'est-à-dire que dans les techniques de clonage et de modification de la vie, il y a beaucoup de choses qui sont assez inédites dans la création de nouvelles formes de vie, dans la possibilité effectivement de cloner in vitro des organes, pour avoir disposé par exemple des organes de remplacement au cas où l'un ou l'autre devrait devenir défaillant. Et effectivement, une des recherches qui n'est pas encore au point, mais sur lesquelles beaucoup de gens travaillent, c'est effectivement la capacité de réactiver une aptitude que nous avons en nous, qui est la régénération, mais qui s'inhibe après les premiers mois de notre existence.
Donc évidemment, pour ce film, c'est un peu difficile de pas en parler. Donc il y a Guillaume Depardieu qui a le rôle principal. Évidemment, c'est difficile de pas en parler puisqu'il est décédé après le tournage de ce film. Donc c'est un film quand même qui est déjà très marqué par sa présence, parce que c'est un grand acteur, et puis aussi par finalement ce dénouement entre guillemets tragique qui finalement est très lié au film. Enfin en tout cas l'histoire de ce film. Alors puisque le héros de votre film est justement cet homme, cet avocat qui a perdu une jambe dans un accident de voiture, dans un accident, on ne sait pas exactement, dans un accident de moto, je crois, et qui donc va essayer de retrouver ce membre par l'intermédiaire de ce professeur qui teste en fait sa méthode sur lui. C'était évident pour vous de choisir Guillaume Depardieu puisqu'en plus c'est très biographique, j'allais dire autobiographique pour lui dans ce film.
Donc comme je disais, le scénario a évolué au fur et à mesure que Guillaume et moi travaillons dessus. Et je vous dis sincèrement que jusqu'au moment du tournage, je ne m'étais pas rendu compte à quel moment c'était devenu autobiographique. Parce que l'intention n'était pas du tout de faire un film sur Guillaume Depardieu, mais de se servir de tout ce que lui, il avait comme expérience et vécu pour donner de la réalité à cette histoire et pour dire non, ce n'est pas de la science-fiction. On n'est pas dans quelque chose d'abstrait, mais il y a une réalité bien concrète derrière ce dont on parle. Parce qu'il faut bien savoir que Guillaume était très sensible à ces questions-là et puis il s'était investi dans ce film précisément parce qu'il pensait que c'était important, le thème et le sujet que nous abordions. Et du coup, il y a cette correspondance. Maintenant, ce qui est aussi très important de savoir, c'est que le personnage de Jonathan Fogel dans le film est très loin du Guillaume Depardieu en tant que personne dans la vraie vie.
Tel que vous l'avez connu.
Oui, et tel que je pense beaucoup de gens l'ont connu. C'est-à-dire que ne serait-ce que si on prend une caractérisation très importante du personnage de Jonathan Fogel, c'est une personne qui est très mutique. Il est tout dans tout ce qu'il ressent, il n'arrive pas à l'exprimer. Il est dans un refoulement de ce qu'il vit et il retient les choses.
Et il retient tellement qu'on dirait que c'est son visage qui finalement est très marqué par ça qu'il exprime.
C'était exactement sur ça qu'on avait travaillé avec Guillaume. C'était enlever presque tout dans le dialogue et laisser exprimer, parler le corps. C'était très intéressant cette dimension-là et cette notion du corps. Le corps qui souffre, qui somatise après tout ce qui lui arrive. Et donc ça c'est un axe qui était extrêmement important, alors que Guillaume c'était quelqu'un qui s'exprimait beaucoup et de façon très vive et très franche sur tout ce qui l'entourait. Ce n'était pas quelqu'un qui avait sa langue dans sa poche, comme on dit, de loin pas. Donc c'est quand on sait ça, il y a deux mondes différents, et donc c'est véritablement un personnage de composition qu'il avait créé, et dont par contre il avait utilisé des éléments personnels pour l'ancrer dans la réalité, ce personnage-là, mais ce personnage-là.
Voilà, et précisons encore que le film, intitulé « L'enfance d'Icar », sortira en salle en République tchèque le 13 janvier prochain. C'est déjà la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de bien vouloir rester encore quelques instants en notre compagnie dans la rubrique Panorama aujourd'hui. Alexis Rosenzweig vous propose la troisième et dernière partie de l'entretien réalisé avec Harry Pollack, dont le livre autobiographique vient de sortir aux éditions Mlada Franta. Parti en France à 17 ans, en 1938, il revient en Tchécoslovaquie en 1945 après avoir combattu avec l'armée tchécoslovaque en exil. En 1949, un an après le coup de Prague, c'est le deuxième exil pour Harry Pollack, qui fuit le régime communiste avec son épouse et se retrouve en Grande-Bretagne, où il entame alors une carrière assez exceptionnelle.
Panorama.
Panorama.
Vous avez commencé, même avec des débuts difficiles en Grande-Bretagne, vous avez une carrière professionnelle assez exceptionnelle. D'ailleurs, le titre de votre livre, le sous-titre en tout cas, votre livre s'appelle en tchèque « Ma vie » et c'est sous-titré « L'homme qui a sauvé la marque Aston Martin » puisqu'au bout de plusieurs années, d'abord dans diverses entreprises, puis après dans des banques d'investissement, vous êtes devenu consultant, notamment consultant pour cette fameuse marque de voiture Aston Martin. C'est la marque qui a prêté la photo qui est sur le livre, je crois, qui a accepté, donc qui vous est reconnaissant aujourd'hui.
Oui, vous savez, la situation est telle que cette compagnie était un hobby de ce David Brown. Qui avait un empire industriel au nord d'Angleterre, des productions de tracteurs employant des milliers de personnes. Et cette compagnie était son petit bijou. Oui. Perdait de l'argent chaque année, et ce qui était pire, lorsque les Woodbury,
les syndicats
demandaient quelque chose, ils sont allés en grève, et les grandes usines au nord, en sympathie, étaient en grève aussi. Alors on leur a permis tout pour les satisfaire. Et au moment où notre société, où j'étais dans le conseil d'administration, une société de financiers à Birmingham avait la possibilité de l'acheter. La société a perdu 4 millions de livres cette année et la banque a déclaré qu'elle va quitter les crédits. Si on ne trouve pas un acheteur. J'étais en vacances en Suisse, faisant du ski avec ma femme, et on m'a téléphoné, il faut retourner immédiatement et regarder s'il y a moyen d'acheter et comment le mettre en ordre. Je suis retourné, j'ai fait au bout d'un jour un plan comment le faire. Et dans 2 ou 3 jours, on a acheté parce que Sir David Brown était très content d'être débarrassé de cette chose. À ce moment-là, on a fait quitter le conseil d'administration immédiatement, et mes partenaires, qui étaient des financiers et des comptables, ont pris charge de la vente et des finances, mais le reste, la sanation, c'était mon devoir. J'étais membre du conseil et pendant 6 mois, on est arrivé pour la première fois dans l'histoire de cette société à arriver à un résultat positif. C'est là de quoi il s'agit. Et c'était un travail très intéressant parce qu'il y avait un grand nombre de personnes de haute qualité technique, mais il n'y avait pas de coordination. Et avec ce que je désigne comme Selskerosum.
C'est difficile à traduire ça, c'est avec mon sens commun?
Oui, sens commun, c'est ça. Avec des choses qui, pour moi, étaient élémentaires, on a pu vraiment très rapidement le mettre en route. Et c'est vrai, sans ma contribution, même mes partenaires qui n'étaient pas spécialisés dans des choses que j'ai pu introduire et que j'ai pu prévenir aussi. Vous savez, des mauvaises
pistes.
Oui. Alors, c'est là l'histoire de Aston Martin.
Vous vivez en Suisse depuis 1975, je crois. Comment est-ce que vous avez vécu la chute du régime communiste à Prague? Vous êtes venu?
Non. J'étais un criminel en Tchécoslovaquie aussi longtemps, jusqu'à la révolution de 89, oui.
Et vous êtes venu à ce moment-là, après 89?
Je ne voulais pas retourner parce que j'étais offendu, ce qui m'est arrivé. Et j'ai mis deux conditions pour retourner. Tout d'abord, de me redonner mon décret d'ingénieur. Et deuxièmement, de me retourner ma propriété. Et quand ces choses-là s'est mises en route, alors je suis retourné, je crois, en 91.
Vous sortez aujourd'hui ce livre autobiographique. Quelle est votre impression? Vous avez rencontré beaucoup de gens de la presse. Les journalistes tchèques aujourd'hui vous surprennent par les questions qu'ils vous posent. Est-ce que vous attendiez à ces questions ou à l'accueil qui vous a été réservé pour la sortie de ce livre?
J'ai une impression mélangée. Je suis surpris de l'intérêt. Vous savez que les gens comme vous sont intéressés de waste,
de
perdre votre temps à m'interroger. Je suis surpris. Je suis aussi surpris du genre de questions qui me sont posées. Qui montre que l'intérêt du marché n'est pas dans les facultés que se présentent chez moi, plutôt des choses qui dont on écrit dans les magasins pour les dames. mais c'est la vie. Et je suis très content que j'ai l'occasion de parler de tout. Parce que en Suisse, après 36 ans de ce jour-là, je suis toujours un étranger toléré. Mais les gens ne me parlent pas. Je suis un hermit.
Un hermit?
Ça se peut en français, oui. Il y a seulement dans le village où je vis, il y a 2800 habitants qui me disent bonjour dans la route parce qu'on me connaît, mais qui ne s'entretiennent avec moi du tout. Il y a seulement deux personnage avec qui j'ai contact, une dame, une amie de ma femme, qui je prends pour faire ses achats parce qu'elle n'a pas d'auto, et je l'amène au coiffeur, et une fois par mois, je suis invité pour un déjeuner chez elle, et nous parlons au téléphone ensemble. Et la deuxième personnalité, c'est le chat de mon voisin, qui vient me voir pour me soulager dans ma solitude. Un chat très gentil, qui vient presque chaque jour.
C'était donc la dernière partie de l'entretien réalisé avec Harry Pollack. C'est aussi la fin pour aujourd'hui du programme en langue française de Radio Prague. Pour écouter cet entretien et l'ensemble du programme de Radio Prague, c'est très simple, c'est sur Internet, c'est le www.radio.cz. Sinon, rendez-vous près de vos postes et c'est encore mieux dès demain, même heure, même fréquence. À très bientôt donc. Ahoy.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 kHz. A las 19 y 20 horas UTC, transmitimos para España por los 5.930 kHz. A las 21.30 horas UTC nos pueden sintonizar en España y en América Latina por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 9.790 kHz. A la 1:30 de la madrugada UTC nos pueden sintonizar en Centroamérica por los 7.410 kHz.